Vous écoutez
RMC. RMC, la une des grandes gueules du sport.
C'est parti pour ce relais 4 x 200 mètres nage libre. Et le patron.
Oh, le départ de Léon. Il sort déjà à 30 cm devant les autres et il attaque.
Et il est en tête maintenant alors que l'on va franchir les premiers 50 mètres. Léon Marchand dans la deuxième longueur prend les commandes. Allez, la dernière longueur va couler dans Léon Marchand. Seul dans cette piscine. Il est devant tout le monde. Une longueur d'avance. 10 mètres maintenant dans ce premier relais. Dans ce 200 mètres nage libre. Il va toucher le mur en première position. Une 43-76, sixième performeur de l'histoire. Première demi-finale du 200 mètres 4 nages. D'entrée, il semble attaquer.
Oui, il attaque effectivement dans ce premier 50.
Attention, il va être dur ce dernier 50. Hubert Cosse est en train de remonter. Léon Marchand est en train de craquer. Il n'est pas bien du tout, Léon, les derniers 25 mètres. Mais il est toujours devant.
Il va assurer.
Il relâche complètement. Il est très très bien, même Léon Marchand. Une 53-95, c'est un très très bon chrono, le cinquième chrono de sa carrière sur cette distance.
Vous venez les championnats d'Europe de natation à Saint-Denis sur RMC depuis le début de la semaine avec eux, Julien Richard et Sophie Camoun. Bonjour les amis.
Salut Georges, salut les GG, salut tout le monde.
Salut. Avec la petite musique là, ça vous accompagne bien, ça nous met bien le feu pour nous réveiller, les amis. C'est le grand rendez-vous de votre journée sportive, hein, auditeurs, auditrices. Léon Marchand dans le bassin de Saint-Denis ce soir pour tenter d'aller décrocher le premier titre européen de sa carrière. Eh oui. Il n'a jamais été champion d'Europe. Il a tout gagné, Léon Marchand, mais champion d'Europe, jamais. Si je veux commencer
par la petite dernière.
Je vais finir par le moins dur.
Ouais.
Peut-être. Il s'est brillamment qualifié en réalisant le meilleur temps des demi-finales du 200 mètres papillon hier soir. Vous l'avez entendu. Notre quadruple champion olympique pourrait, on l'espère, surtout affoler les compteurs en s'approchant du record du monde en finale ce soir à 18h30. À suivre avec vous, Julien et Sophie sur RMC. Évidemment, tiens, Léon Marchand, après sa demi-finale, on l'écoute.
Pas d'économie du tout, une 53, faut aller les chercher. Je gagne ma demi-finale, donc c'est parfait. Je pêche un peu dans le dernier 50. Je suis un peu sous l'eau, j'arrive moins à mettre les jambes, etc. Donc j'espère que ce sera un peu mieux demain soir. Je pense que dans ma tête, inconsciemment, j'ai pas la même énergie que dans une finale européenne. J'espère que je l'aurai demain. Faut pas savoir, mais voilà.
Voilà, demain soir, c'est aujourd'hui, évidemment, 18h30 pour le 200 mètres papillon sur RMC. Julien, Sophie, vous l'avez trouvé comment, Léon Marchand, et avant sa finale de tout à l'heure?
J'ai dit tout et
son contraire. On a entendu.
Son contraire dans la même dernière longueur parce que ça m'a un peu inquiété et après on s'est dit en fait il gère et en fait pas tant que ça. Donc il y a pour moi une petite interrogation quand même sur ce qui s'est passé hier, mais je pense que ça n'aura rien à voir avec ce soir la finale, mais je pense que hier il lui en manquait un tout petit peu quand même.
Sophie, on est préoccupé ou quoi? Parce que là j'écoute Julien, c'est parce qu'il est tôt, hein. Peut-être que parce qu'il est tôt, il va bien réveiller, mais
alors on n'est pas préoccupé pour le titre européen, ouais. Hein, là je pense qu'il a une marge, il a 3 secondes d'avance sur les autres. Mais voilà, c'est toujours difficile de nager une demi-finale quand on a envie de se rassurer, mais en même temps on a envie d'en garder sous le pied, parce qu'on sait qu'il y a la finale le lendemain. Pendant 100 mètres, il a été très très bien, et ensuite au moment où il aurait dû justement en remettre un petit peu, il s'est laissé un petit peu aller. Mais on ne sait pas s'il va battre le record du monde cet après-midi, mais en tout cas la victoire, c'est presque une formalité.
Oui, on rappelle qu'il était avant ces Europes diminué par une blessure aux adducteurs. Ça va, a priori, un adducteur, physiquement, il est à 100%, Julien ?
Oui, la préparation n'a pas été idéale, quoi. Mais après, la blessure à l'adducteur, ça le gêne sur les mouvements de brasse, vous savez, les mouvements de grenouille, là, le ciseau. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait le 200 mètres brasse, c'est pour ça qu'il n'a pas fait le 4 nages. Mais sur les ondulations, il expliquait que ça le gênait un tout petit peu pendant la préparation, mais j'ai le sentiment que là, dans le feu de l'action, ça doit pas trop le perturber quand même, parce que vu ce qu'il a fait sur le 200 mètres nage dans le relais, bon, ça va, quoi.
Tu sais que les mouvements de grenouille, c'était la spécialité de Julien, hein, il était brasseur, lui.
Ah oui, mais tu sais,
qui est le brasseur?
Sophie, j'allais dire, si on allait rebaptiser ça Jérôme, 200 mètres grenouille plutôt. Tu es plutôt grenouille, toi, Jérôme?
Très grenouille.
Je suis très grenouille.
Bon, les amis, évidemment, c'est notre une, Léon Marchand, aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle tous ensemble pour débuter. C'est vrai, alors, on se posait la question en préparant l'émission. Léon Marchand, c'est pas un garçon qui fait débat, c'est pas un garçon qui fait polémique, c'est un garçon qui, on va dire, nous a tellement habitué à des grandes performances qui nous unit. Donc peut-être, à travers lui, on va plutôt essayer de comprendre la haute performance. C'est ce que je voudrais qu'on fasse un petit peu ce matin. Comment est-ce qu'un champion arrive toujours à repousser ses limites? Parce que là, on parle, Sophie, c'est même marrant de t'écouter. On se dit, bon, il va être champion d'Europe. C'est vrai que peut-être que pour le record du monde, ça va être un peu compliqué. On en est là. là avec le degré peut-être d'exigence qu'on a avec ce garçon. C'est finalement pas si habituel dans le sport français. Julien, comment il marche Léo Marchand? C'est quoi son logiciel pour repousser ses limites à chaque fois? Il y a quoi dans sa tête?
Alors, je suis pas informaticien. On va essayer de décrypter ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais en fait, je crois que il fonctionne au challenge. Ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis qu'il est tout jeune nageur d'ailleurs, avec une obsession de la performance, qu'il doit d'ailleurs tempérer, trouver un équilibre dans cette obsession. L'illustration, ça va peut-être vous parler, c'est sa volonté de tenter le doublé inédit au jeu de Paris. Vous savez, ce 200 mètres papillon et ce 200 mètres brasse dans la même journée, ce que même Phelps n'avait pas osé tenter finalement. Et pas tellement, on a tendance à l'oublier, mais c'est pas seulement une question de calendrier. Personne n'avait aussi jamais nager ces deux épreuves-là, la brasse, le papillon, au plus haut niveau en natation, c'est totalement antinomique. Et c'est ce qu'il a porté, il a mis en place des choses autour de ça pour réussir ce pari-là. Depuis Paris, il répète que ça ne l'intéresse pas de refaire la même chose à Los Angeles, donc il s'aventure par exemple sur le crawl, nouveau challenge. Dans le logiciel de Léon Marchand, également beaucoup de curiosité, je pense, de savoir jusqu'où il peut aller, pousser son corps, pousser ses limites. Il y a un bout de réponse dans ce qu'il nous disait d'ailleurs après sa demi-finale hier. Je voulais me tester, voir en termes de douleur ce que ça fait, la douleur de passer plus vite au premier 100 mètres. Et juste la phrase avant, je me suis bien amusé.
J'aime bien ça, le fait de faire une demi-finale de championnat d'Europe juste pour faire un test de résistance à la douleur. En fait. C'est ça quand t'es champion. Sophie, avant de t'écouter, on va faire justement un petit tour de table. L'idée ce matin entre sportifs de haut niveau, entre suiveurs aussi, on suit des grands sportifs depuis des années avec Simon, avec Julien. Comment un champion peut toujours repousser ses limites? C'est vrai que c'est les questions qu'on se pose à chaque fois quand on voit cette construction de la performance. Jérôme, évidemment, tu viens du vélo. Quand tu vois ce que fait Léon Marchand, est-ce que ça te fait penser à des choses que toi, tu as vues dans la construction de champion, dans la faculté à repousser à chaque fois les limites?
Aller chercher des nouveaux challenges, surtout, oui. C'est ce qu'on vit avec Tadej Pogacar en ce moment dans le vélo, et qui cherche à aller chercher des classiques qui ne sont pas forcément prévus pour lui à la base, dont Paris-Roubaix, qui se refuse à lui. Milan San Remo, ça c'est longtemps aussi était un obstacle pour lui. Et puis dans la pratique quotidienne, moi j'ai connu des coureurs, des garçons comme Mark Cavendish qui avaient un rêve, c'était de gagner sur la Via Roma à San Remo. Il a fallu qu'il bosse dans les bosses, il va chercher d'autres comme Léon Marchand, d'autres nages. Lui c'est un nouveau style, c'est plus de résistance dans les bosses. Il a gagné des courses qu'il n'aurait pas dû gagner en travaillant différemment.
Comment tu le vois, toi? Comment t'es témoin de ça? Quand t'es à côté du meilleur sprinteur de l'histoire.
Ça travaille beaucoup et c'est ce que dit Marchand quand il dit je voulais connaître la douleur de faire le premier 100 mètres très vite. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand tu gagnes tous les sprints, que tu domines dans ton domaine, qui était le sprint pour Cavendish, il va chercher en dehors de sa zone de confort. Et on les entend souvent, les grands, les très très grands, dire il faut que je sorte de ma zone de confort, sinon je vais me lasser, ça va être toujours la même chose. Et là, c'était ça. Et il faisait des entraînements où il allait monter les bosses. Alors d'habitude, il était plutôt sur le groupe sprint. Là, il intégrait le groupe classique ou le groupe grand tour. Il montait des côtes plus longues que d'habitude pour essayer de dépasser ses facultés intrinsèques.
Et tu dis quoi, ce mec fait des trucs que je peux pas faire?
Par contre, moi, il y a des.
J'ai Parce vu que des c'est choses. Ça aussi, quand on côtoie des champions, les grands champions, vous les côtoyez tous. C'est la distance aussi qui nous sépare avec l'extraterrestre.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que par exemple, un Niki Terpstra avait décidé que
il était
temps pour lui et de Paris-Roubaix, pour lui d'aller chercher ces grands monuments-là, je l'ai vu faire des sorties de 10 ou 12 heures. Il rallongeait 3 heures des grandes sorties d'entraînement avec nous.
Quand toi tu faisais des sorties de combien maximum?
6, 7, déjà c'est pas mal.
Mais on en revient à la résistance à la douleur que nous disait Julien à quelques instants.
Mais moi, arrivé à l'hôtel, quand on me disait il retourne faire un tour derrière voiture, j'ai dit mais moi je vais dormir en fait, là je peux pas faire ça. Et c'est la différence entre les très grands et les moyens comme on était. Ces garçons-là, ces filles-là, sont différents.
Sophie Camoun, évidemment, c'est vrai qu'en plus la natation, il y a un côté un peu ingrat dans ce sport. Hein. On dit souvent, ils vont compter les carreaux dans le fond de la piscine ou au plafond. Mais
tourner quand on voit le mur. Dans l'autre sens.
Exactement. Non mais la clé des grands champions, c'est quoi? C'est la résistance à la douleur, c'est ça un peu le.
Je pense en fait qu'on repousse même tous les jours ses limites à l'entraînement. On repousse ses limites quand on se lève à 5h du matin pour aller plonger dans l'eau froide, quand on est toujours à la limite de la blessure en poussant son corps.
Quand on apprend, comme tu le dis, à tolérer
la douleur, la fatigue. Je pense que les sportifs de haut niveau, nous les nageurs, on est perpétuellement fatigués. On est tout le temps fatigués. On apprend à vivre avec cette fatigue, avec la douleur en permanence. On prend des décisions aussi qui coûtent. Je pense à Pauline Maillot qui a fait médaille de bronze là au championnat d'Europe à 27 ans pour la première fois de sa carrière. Elle est partie au Canada s'entraîner toute seule en laissant son compagnon en France, en nageant elle aussi avec une fracture sans même savoir qu'elle en avait une, en faisant d'énormes sacrifices financiers pour aller trouver une nouvelle méthode d'entraînement. Je pense à Maxime Grousset aussi qui refuse de déclarer forfait alors que il est pas en pleine possession de ses moyens, qui nage pendant un mois avec une jambe dans une botte.
C'est celui qui en veut plus que les autres aussi, celui ou celle.
Oui, exactement, qui va chercher en fait. Maxime par exemple, il a compensé la perte de son efficacité sur les jambes en allant chercher des choses dans les bras, une nouvelle puissance dans les bras, dans le mental. On va chercher des choses en fait qu'on n'aurait jamais imaginé possible, et très souvent on le fait quand on est aussi au pied du mur ou quand on a quelque chose qui va pas, et c'est ça qui distingue aussi le grand champion des autres.
Mais regarde, quand tu as les témoignages dans le football, Simon, c'est on a ces mecs-là disent, par exemple Cristiano, ils disent tous, Cristiano, il enchaîne les séries, après l'entraînement, il continue, il frappe au but. Les grands, il n'y a pas de secret, hein. Tu peux être un très grand, si ça bosse pas, tu fais pas partie des légendes. Ces garçons-là et ces filles-là vont chercher autre chose, mais parce qu'elles bossent, ils bossent. Le seul talent ne suffit pas à être un très grand et durer surtout.
Simon, la construction du champion qui repousse ses limites, c'est vrai que c'est toujours fascinant.
T'as parlé dans ton introduction du cocktail entre les champions, leur entourage et les suiveurs. Les champions, ils sont confrontés à plusieurs types de limites. Il y a des limites physiques, physiologiques, il y a des limites mentales, psychologiques, il y a des limites éventuellement qui remixent un petit peu tout ça. Et puis, ils sont parfois confrontés à des limites collectives, j'ai envie de dire. Comment dire ? Des limites sociétales. Tu vois, quand le record du mile a été battu, j'ai bossé un petit peu avant l'émission, on disait que ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas été battu, on ne pouvait pas passer sous les 4 minutes. Et à l'époque, des spécialistes disaient que ce n'était pas possible. Que
la limite humaine, oui.
Et en fait, à partir du moment où tu te mets dans la tête que ce dépassement de limite est possible, tu peux te dépasser toi-même. Et il y a parfois une
refus des limites, en fait.
Collective, exactement, dans l'acceptation de l'existence ou pas d'une limite.
Non, mais c'est effectivement, c'est comme les barres des 4 minutes au 400 mètres, 4 nages, par exemple. C'est comme les barres de Boubka, à l'époque passées par la Villénie. C'est intéressant de savoir comment les champions arrivent à briser les records, à aller encore un peu plus loin. Sarah, dans le tennis. Dans le tennis, il y a les adaptations, je pense, pas Nadal qui a su aller gagner sur gazon alors qu'on pensait tous que c'était un terrien. Toi, qu'est-ce que tu as vécu dans ta carrière qui t'impacte un peu comme quand tu peux voir Marchand actuellement ?
Bah, y a eu, nous, dans le tennis féminin, il y a eu des grandes phases où des joueuses sont arrivées en jouant différemment et ont été le moteur de l'évolution et de la progression du tennis féminin. C'est vrai que le tennis féminin dans les années 90, c'était plutôt un jeu lent, de fond de court, loin derrière la ligne. Il y avait vraiment un fossé entre le tennis masculin et féminin. Et puis, il y a des joueuses qui sont arrivées et qui ont bousculé ça. Alors moi, j'étais de l'époque où je jouais quand il y avait les Conchita Martinez, Arantxa Sanchez, Steffi Graf.
Ah oui, t'avais quand même.
Heureusement que je vous dis pas Navratilova et Chris Evert quand même. Hein. Mais disons loin. Que c'était oui, pas loin. Enfin quand même. Mais c'était un jeu qui était un peu soporifique. C'était des moonballs et est arrivée une joueuse qui nous a fait tout évoluer et moi la première c'est Monica Seles. Alors c'est pas parce qu'elle jouait à deux mains des deux côtés, parce que il y en a eu très peu des joueuses, et il y a eu qu'une numéro un mondiale qui jouait à deux mains des deux côtés. Il y en a eu deux qui ont gagné des grands chelems, puisque Marion a gagné Wimbledon avec son jeu à deux mains des deux côtés. Mais en fait ce qu'elle a amené, c'est qu'elle jouait très près de la ligne de fond de court. Donc en fait elle a vu une technique qui lui permettait de le faire, et donc quand elle est arrivée, on était toutes bousculées parce que le jeu se jouait beaucoup plus vite. On avait moins le temps de se replacer, moins le temps de s'organiser. Et en fait, elle a fait évoluer ce tennis, et tout autant qu'on est, eh bien, on a appris à jouer plus vite, on a appris à avoir une technique plus courte pour pouvoir jouer plus tôt, prendre la balle plus tôt, et donc gagner en vitesse de jeu. Et moi, j'ai vu Monica Seles, j'ai adapté mon tennis. Alors, vous le sauriez, mais j'ai pas eu les mêmes résultats. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas.
Aucun souvenir.
Et puis après, il y a... Ouais. Et puis après, il y a eu une autre avancée, c'est Martina Hingis. Martina Hingis, elle n'était pas puissante. Elle avait pas de puissance, elle n'était pas musculeuse. Et en fait, elle a trouvé un moyen de se déplacer sur le court en gagnant des pas. C'est-à-dire qu'on a appris à jouer au tennis, peut-être que vous avez joué au tennis, où on devait être perpendiculaire au filet. C'est-à-dire qu'on devait être aligné les deux pieds et traverser la balle. Et elle a appris à jouer de face. C'est-à-dire que c'était le haut du corps qui tournait, mais pas le bas.
Mais en fait, c'est le principe, un peu comme disait Simon il y a quelques instants, c'est le champion qui arrive, qui se dit que les limites n'existent pas et qui redéfinit les règles même du sport. Et oui, tout le monde doit s'adapter derrière. Tout le monde doit s'adapter derrière.
En tout cas, ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent le faire. Et ça a fait augmenter le niveau du tennis féminin.
Non, mais c'est comme. Donc en fait. Léon Marchand s'inspire, on va en parler dans un instant, de Michael Phelps. Il a le même entraîneur que lui, très certainement. Et aujourd'hui, Léon Marchand inspire le champion qui repousse les limites. Les champions de demain aussi pour réinventer encore cette discipline. On est dans la fabrique des champions pour ouvrir les grandes gueules du sport ce matin, en ce jour où on attend Léon Marchand pour aller décrocher un premier titre européen. 18h30 sur RMC avec Sophie Camoun et Julien Richard au commentaire. Ce sera ce soir le 200 Papillon. On en parle dans un instant avec vous au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport ce matin, en ce jour de gloire, on l'espère, pour Léon Marchand, finale du 200 mètres papillon. Ce sera 18h30 à suivre sur RMC avec Julien Richard et Sophie Camoun. Il y a des séries qui débutent déjà ce matin d'ailleurs, Julien Richard. On va revoir Maxime Grousset notamment.
Oui, exactement. On va revoir Maxime Grousset sur le 50 mètres nage libre, sa dernière course individuelle dans ces championnats d'Europe. Lui qui a déjà gagné l'argent sur le 50 papillon et sur le 100 mètres papillon, et aussi l'or avec le relais 4x100 mètres 4 nage mixte.
On l'attend évidemment, on suivra évidemment les courses et les résultats ce matin sur RMC. On est avec Jérôme Pinault, on est avec Sarah Pitkowski, avec Simon Dutin. Participez, parlez-nous aussi de votre fascination pour Léon Marchand ce matin au 32-16 sur WhatsApp au 06-12-424-424. On se pose la question, comment un champion peut toujours repousser ses limites alors qu'on évoque un possible record du monde. Ce soir sera compliqué peut-être pour Léon Marchand. Sophie, on parlait il y a quelques instants de l'inspiration des uns et des autres pour dépasser les limites. Léon Marchand, il est entraîné par celui qui a fait Michael Phelps. À quel point tu trouves des similitudes entre ces deux-là et dans l'attitude aussi, dans la construction de la performance?
Il y en a beaucoup déjà techniquement, puisqu'on parle tout à l'heure du 200 mètres papillon et de la finale qu'il va disputer tout à l'heure. Il s'inspire beaucoup de la technique de Michael, qui était très à plat sur l'eau quand il respirait en papillon. Et Léon a progressé à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on se dit qu'il est capable, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être l'année prochaine ou à Los Angeles, mais de battre ce record du monde de Christophe Milak, parce que vraiment Léon a beaucoup progressé depuis les Jeux de Paris. Et je voudrais revenir juste sur le fait qu'on parlait tout à l'heure, Simon parlait des limites mentales. Julien parlait lui de ces défis que Léon se fixait à chaque fois, des challenges toujours un petit peu fous pour garder la motivation. Et moi je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que Léon, on n'est pas en face d'un athlète où on se dit comment il va faire encore pour progresser. C'est fou, parce que je vous dis ça chaque année, mais je le pense vraiment. Je pense que Léon est vraiment loin d'avoir atteint ses limites, ses limites physiques, ses limites techniques. Il peut continuer à progresser encore dans plein de domaines, les coulées, les virages, sa manière de gérer ses courses, etc. Et je pense que le vrai challenge qu'il a, c'est le challenge mental. Je pense même qu'il peut potentiellement arrêter de nager avant d'avoir atteint ses limites physiques et techniques.
Ah bon, pourquoi?
Et c'est peut-être la différence avec Michael Phelps, justement.
Exactement. Bon, Michael a arrêté, il a repris derrière, mais parce que Léon, il a tout gagné, parce que peut-être que très probablement après les Jeux de Los Angeles, il aura envie de faire autre chose de sa vie. C'est un garçon qui est très curieux, qui a envie de faire plein de choses. À Los Angeles, il aura que 26 ans, il aura encore une marge de progression, mais je suis pas sûr qu'il en aura encore envie. En fait, il le dit lui-même, tant que je prends du plaisir, je continue, et puis le jour où j'en prendrai plus, j'arrêterai. Mais je pense que c'est mental que physique.
Sarah. Ce discours, on l'entend de plus en plus, en fait.
Et parce que c'est plus en plus exigeant, je pense. Il faut aller encore plus loin et faire plus de sacrifices pour rester là-haut.
Et parce que l'exposition, la pression et l'exposition sont là, et c'est un discours qu'on entend de plus en plus chez les très très grands, que au lieu de nous dévoiler un peu leurs ambitions ou les records qu'ils ont envie de faire, ils te servent le du moment que je me fais plaisir, je continue. Sous-entendu, c'est la condition sine qua non pour laquelle je suis prêt à faire des sacrifices.
Tu veux dire quoi? Que dans la construction du champion, un nouveau par discours. Le passé, on n'entendait pas trop le mot plaisir, en fait, dans l'importance.
Mais non. Mais parce que le plaisir n'était pas, c'était pas quelque chose qui était mis dans ta construction. C'est le sport de haut niveau, c'est difficile, c'est dur, les sacrifices. Mais comme on avait jamais, on n'entendait pas le burn-out, en fait, il fallait continuer. C'est un peu un hamster qui court dans sa roue. On n'entendait pas ce discours de dire on peut stopper parce que j'ai plus de plaisir. Regarde le dernier débat que tu vas nous demander aujourd'hui. C'est celui de Florent Manaudou qui, à un moment, n'avait plus ce plaisir. Et donc, en fait, je pense qu'il y a des nouvelles normes qui font que les très grands champions arrivent à se surpasser. Mais cette notion de plaisir, elle devient une valeur cardinale chez eux.
Simon.
Et elle n'existait pas au moment de Michael Phelps, puisque tu compares avec Michael. Oui. Michael, il a explosé, il a fait un burn-out, il a dû arrêter avant de reprendre. Je pense que Léon a une conception un peu différente. Mais Léon, il pousse ça à l'extrême, ce plaisir. Il décide de ne pas faire quelque chose, il s'y tient. Par exemple, il n'a pas envie de répondre à une interview, il ne répond pas. Il n'a pas envie de signer avec un partenaire qui lui offre plusieurs millions parce que ça ne correspond pas à ce qu'il a envie de faire. Il signe pas. Il veut vraiment garder cette liberté pour continuer à garder le plaisir. Alors ça agace parfois, mais pour lui c'est sa seule façon de continuer à nager, à progresser.
Simon.
Alors c'est un œil d'observateur. Je pense que le plaisir il a toujours existé. Il est intrinsèque à l'amour de son sport, l'amour de la compétition, l'envie de se dépasser. Tu sais, c'est le mythe de Sisyphe.
Oh, hein, tu es bien naïf, Simon.
Oui, d'accord, mais Sarah, mais pour se peler, t'es bien placé pour le savoir. Des voyages toute l'année pour aller de Melbourne à Sandrosé, en passant par l'Europe. Enfin, je veux dire, il faut aimer ça. Il faut avoir envie de se dépasser, mais même tout jeune en club, quand tu te pèles pour un match de foot ou un match de tennis, que t'es là l'hiver, que t'es là le 15 août, que t'es là, enfin je veux dire, l'amour du sport, tout le monde le connaît. Il y a les limites personnelles.
Ouais, mais justement, quand tu l'as épuisé,
je reviens à la déclinaison que je faisais. Il y a les limites après structurelles, collectives, sociétales, philosophiques qui sont attachées à ta performance et au sport. Et vous l'avez rappelé, Sophie l'a rappelé tout à l'heure. C'est Julien peut-être. Léon Marchand, il a déjà fait voler en éclats les limites structurelles parce que il a couru, il a fait en une journée ce que Phelps n'avait jamais fait. Il n'est pas interdit de penser qu'après Los Angeles, il sera le deuxième nageur le plus titré de l'histoire. Il a déjà repoussé toutes ses limites. Il est plus dans le combat contre les adversaires. Il est dans le combat contre
lui-même. C'est ce qu'il a envie de faire.
C'est ce que Nietzsche développait en philosophie. Tu te bats, le champion, il se bat pas contre ses adversaires. Il se bat contre la version antérieure de lui-même, et à partir du moment où il a fixé des limites. Et au bout d'un moment, il y a une lassitude quand t'as fait voler en éclats tout le système, comme une Comaneci qui a claqué un 10 sur 10 en gymnastique. Bon, mais après, qu'est-ce qui te reste? C'est normal que une forme de lassitude s'installe, mais ça, c'est le luxe, j'ai envie de dire, réservé aux champions qui sont phénoménaux, qui sont des météorites, voilà. Et Marchand, il s'est offert le luxe, en effet, comme le disait Sophie, de prendre une éventuelle retraite à 28, tu vois, 27, 28 ans, là où d'autres sont obligés d'aller pousser les limites jusqu'à ce que l'âge et le corps les rattrapent.
On entendait
les
discours, on en parlera tout à l'heure certainement, on va parler de Pogacar, on pourra parler d'Alcaraz aussi, la notion de plaisir sur la durée. Et 9h39 sur RMC, on a claqué un niche, hein, quand même, c'est suffisamment rare dans les grandes gueules du sport pour le souligner.
Moi, ça m'a fait bizarre.
Hein. On a Philippe qui nous appelle au 32-16. Philippe qui nous appelle des Yvelines et qui est préparateur physique. Hein, ça va être intéressant. Salut Philippe.
Oui, bonjour à tous, notamment au formidable Jérôme Pinault, que j'ai eu la joie de rencontrer il y a quelques semaines.
Ouais, c'est vrai qu'il est formidable.
Salut Philippe.
Ouais. Ça veut dire il est vachement plus sympa en vrai que à la radio.
Ah, ouais. Quand même, ça se vérifie pas toujours, Philippe. Hein, plus, tu l'as pas dû le voir,
c'est
un bonjour.
C'est au centre de Tsouros, à la bol, il était de bonne humeur.
Philippe, on se pose la question ce matin, comment un champion peut toujours repousser ses limites? Bah tiens, t'as tes prépas physiques, tu dois avoir un œil là-dessus, le débat doit t'intéresser.
Ben oui, c'est une question extrêmement complexe, hein, parce que ça dépend tellement des gens. Alors il y a le mental, j'y crois pas trop. Hein. Franchement, je pense pas que maintenant tout le monde a le mental, on va dire. Tout le monde se rêve champion. Le physiologique, il y a des sports technologiques où on peut repousser ses limites. Bon, je pense aux plaques carbone dans les chaussures en athlétisme, ça a quand même changé un peu la donne. à l'époque les maillots de bain en natation. Après, il y a des sports éminemment techniques comme la natation. Effectivement, là, on peut repousser ses limites.
Et les données et tout aussi, Philippe. On a accès à beaucoup plus de données maintenant aujourd'hui pour améliorer sa performance qui n'existait pas il y a quelques années.
Les données, ça reflète ce que tu fais. C'est plus précis dans l'entraînement et encore.
Analyser et établir peut-être marge que tu as pour évoluer.
Exactement. Mais parce que je pense que les datas et la meilleure connaissance de sa physiologie personnelle, parce que on peut analyser, permet aussi d'augmenter sa performance, de savoir quand est-ce que tu peux performer, les moments où au contraire même si tu te sens bien, les données physiologiques te donnent un autre message et peut-être qu'il faut adapter. Je pense que ça aujourd'hui, c'est vraiment l'optimisation de la performance, ce qu'il n'y avait pas il y a une quinzaine d'années.
T'es pas d'accord?
Je suis pas du tout d'accord, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Rien qu'en cyclisme, demande à tous les coureurs. Des fois, ils ont pris le départ de course, ils avaient des mauvaises jambes et tout, et dans la dernière heure, ils volaient. Et s'ils avaient écouté leur corps et leur data, leur capteur de puissance, ils auraient peut-être pas osé faire ce qu'ils ont fait.
Il y a des
gens, ils dorment pas la veille d'un Ironman, ils pètent des scores sur un Ironman alors qu'on leur dit faut dormir 8 heures avant. Il faut laisser une part.
J'ai autant d'exemples qui vont dire que il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, le fait d'avoir plus de données aurait, en tout cas dans mon sport, aurait permis d'adapter la programmation des tournois et donc d'éviter des fatigues ou des moments de récupération.
Je suis d'accord avec Philippe parce que, par exemple, mon cas personnel, si on n'avait que pris en compte les datas, ma carrière se serait vite arrêtée en fait, parce que sur des données à l'époque, on arrivait à réussir sur des tests hospitaliers en avant-saison, faire des tests VO2 max par exemple pour aller chercher nos niveaux de puissance pour travailler l'hiver. Mais moi, j'étais nul, j'étais un minime. La concurrence, moi, je pense que ce qui est encore plus beau pour en revenir au débat actuel, c'est de pouvoir se battre contre soi-même. Parce que ces garçons-là, comme Marchand, comme Poggi, comme les autres qui sont au-dessus, moi, ce qui me transcendait, c'était l'adversité. J'avais envie de les tuer, les mecs, d'aller le chercher dans une bosse, de lui mettre une sacoche dans la dernière
c'est
kilomètre.
C'est ça qui te fait progresser plus, en fait. Qui te fait aller
évidemment,
chercher,
c'est là
limites,
tu vas chercher tes limites. Mais face à soi-même, c'est très, très difficile. La deuxième chose que je voulais dire, qui n'a rien à voir avec la force physique, c'est aussi, quand on les entend... peut-être que certains vont tomber de leur chaise, de me dire, moi, à 26, 27 ans, après les Jeux, j'aurais tout gagné et je vais commencer à savoir s'il n'y a pas autre chose qui m'intéresse dans la vie. Oui, parce que Pépère, t'as amassé l'oseille qu'il faut pour pouvoir vivre avec.
Arrête-toi tout
mais
de suite.
Si, parce que il y a 20 ans, les salaires et les revenus étaient pas les mêmes.
Surtout.
Mais t'as
rempli les objectifs.
Oui, mais tu peux te permettre aussi de lever le pied.
De penser à autre chose, d'avoir
parce que c'est leur job.
T'as raison, bien sûr.
Quand on entend que Poggi,
il y a des sports, c'est plus facile que dans d'autres.
Pogacar a un contrat jusque 2030. Il parle d'arrêter en 28. C'est-à-dire que c'est un garçon, et je l'ai lu l'autre jour dans l'excellent podcast Le Peloton. Il va s'asseoir sur 20 millions s'il arrête. Faut en avoir les capacités financières quand même.
Effectivement. Comment un champion peut toujours repousser ses limites? C'est passionnant. Vous écoutez tous dans vos différents sports pour avoir un peu votre point de vue. On pourra en parler pendant des heures. On appellerait ça le vestiaire. Ce serait dans la grande gueule du sport à 11h sur RMC.
C'est un bon. Ouais.
On a commencé par ce genre de discussion aujourd'hui. Ça nous a permis de parler de Nietzsche et de Sisyphe. Tiens, Mickaël sur WhatsApp au 06 12 424 424, ouais, me demande, Simon, il fait quel sport Sisyphe?
Ça pourrait s'apparenter du bowling antique, mais avec une piste un petit peu
du
moins.
Bowling antique.
Un petit peu moins. Ouais.
Avec une grosse balle.
Ouais, une grosse bouboule à faire rouler. Voilà.
C'est une balle de Fred Weiss.
Voilà.
Il pourrait tout à fait jouer Sisyphe, Fred Weiss.
Ouais, on va lui proposer.
Le grand.